sont pas encore impliqués dans leur complot, ça ne saurait tarder.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec notre soirée énervée, toujours en deux temps, toujours à deux vitesses. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ah j'adore bon dire extraordinaire. Ouais. L'actualité ce soir, c'est fake news et complotisme. Gilets jaunes, élection de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, élection européenne, le mouvement de Steve Bannon. Quand les fake news gouvernent le monde post-vérité. Désinformation, une nouvelle arme politique, Christophe Bourseiller ?
Bah écoutez, pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce que nous allons envisager aujourd'hui. Vous voulez des titres, peut-être ? Ah, vous voulez les titres de l'émission ? Ouais. J'ai beaucoup travaillé. Alors, titre sérieux, fake news, le tsunami du mensonge, un peu sérieux. Ouais. Et si c'était faux, voyez ? Et si seulement c'était faux ? Alors, c'est l'heure des infox, pour l'interrogation. Et puis alors, le plus travaillé, fake la guerre, pas l'amour.
D'accord, je préfère quand c'est d'accord un peu moins travaillé. Oui, j'aimais bien juste avant, c'était un peu mieux. En live ce soir, Marion Guilbeault qui a bossé elle aussi pour avoir
teamed up, celui qui incarne ce renouveau de la chanson avec un équilibre entre poésie, son contemporain. Il est en live pour un titre en avant-première dans le NRV.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter plus d'interception ce soir. Le magazine hebdomadaire de grands reportages de la rédaction fête ses 20 ans. Au programme, un interception d'exception. Les bonobos, les hippies des grands singes. Un reportage de Christine Siméon et les questions de sexualité, ça nous intéresse tous.
Ah bien.
Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et tout de suite, je fais un tour de table pour présenter nos invités. Rudi Rechtstadt, vous êtes fondateur et directeur du site Conspiracy Watch et vous signez L'Opium des imbéciles, la critique du complotisme est un sport de combat aux éditions Grasset. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Emmanuel Ostian, vous êtes journaliste, reporter de guerre, auteur de Désinformation, enquête sur les fake news qui gouvernent le monde aux éditions Plomb. Bonsoir à vous.
Bonsoir Laurent.
Enfin, Kevin Limonier, vous êtes géopolitologue, spécialiste du cyberespace et notamment de l'internet russophone et du boulot. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis on terminera ce NRV avec un entretien que j'ai fait avec Alison Kleyman pour son film Steve Bannon, le grand manipulateur, qui sortira mercredi prochain. Donc elle ne peut pas nous dire bonsoir, mais je vais le faire. Bonsoir.
Et Steve Bannon n'est pas venu finalement.
Nice to meet you. Okay. Christophe Bourseiller.
Alors écoutez, Laurent, je suis très étonné que vous participiez ce soir à une émission sur les complots. Laurent, vous qui distillez les rumeurs, vous qui n'êtes qu'un laquais au service du nouvel ordre mondial, à moins Laurent que vous ne soyez naïf. Vous pensez sérieusement, Laurent, qu'Emmanuel Macron est venu au pouvoir par des élections libres? Vous croyez vraiment que le réchauffement climatique est d'origine humaine, alors qu'il s'agit à l'évidence d'une opération extraterrestre, les aliens adaptant notre planète à leur métabolisme? Prenez le bombardement récent de puits de pétrole en Arabie Saoudite. À l'évidence, les Saoudiens se sont bombardés eux-mêmes pour plonger les bourses dans le chaos et faire monter le prix du pétrole. Et les réunions du G7, Laurent, un conclave de guignols, de mauvais acteurs qui gesticulent, tandis que les vrais maîtres du monde, eux, tirent tranquillement les ficelles. Alors vous l'aurez saisi, Laurent, le complotisme auquel je viens de m'adonner est un jeu assez drôle et c'est un jeu à la mode. Il est d'autant plus efficace que les fake news, eh bien, elles proviennent bien souvent de sources organisées, voire d'États, qui distillent les demi-mensonges et les demi-vérités pour nous plonger dans la confusion et y réussissent très bien.
Vous saviez qu'Hillary Clinton était un homme ?
Bah, bien sûr, vous n'étiez pas au courant.
C'est ce que j'ai appris dans les fake news, dans le livre.
Et Obama est kenyan, voilà. Hein, c'est bien connu. C'est vrai, Laurent, il y a de vrais complots. Raison de plus pour éviter de sombrer dans les théories du complot qui relèvent de la paranoïa collective. Emmanuel Ostian, on va commencer par un sujet récent et français. Les gilets jaunes, selon vous, c'était une révolution de couleurs téléguidée par une puissance étrangère, oui ou non ?
Téléguidée, sûrement pas. Mais à la fin, largement accompagné, comme la dite puissance étrangère aime le faire. Enfin, d'ailleurs, la dite puissance étrangère, on pourrait la mettre au pluriel, hein, parce que il n'y a pas que les Russes pour les citer qui ont un intérêt à souffler sur certaines braises. Et ce qui est sûr, mais mes camarades le savent mieux que moi sans doute, c'est que ils partent à chaque fois d'un mouvement qui est réel. On peut pas contester qu'il y a eu une forme d'éruption au début. totalement invisible d'ailleurs pour d'autres raisons de la part de ce que l'on appelle les élites, hein, qui n'ont absolument rien vu venir. Et ensuite, il s'agit maintenant, et c'est toute la finesse de la chose, d'accompagner ce genre de mouvement, en quelque sorte de l'élever, de le faire grossir, de le maintenir, de nourrir des personnages, d'en exclure certains, de créer des clivages, une polarisation. Hein, c'est vraiment ce qui est très important. Et ça a merveilleusement fonctionné en l'espèce là. Les gilets jaunes.
Justement, Rudi Reichstadt et Emmanuel Ostion, vous avez un point commun dans vos deux livres respectifs, c'est que vous évoquez les révolutions de couleur. Et c'est vrai que très souvent, des gens qui sont accusés de fomenter des complots vont dire « Ah non, mais en face, il y a des révolutions de couleur, les mouvements sociaux sont manipulés par, en général, le pays d'en face ou l'adversaire en face. »
Oui, révolution de couleur, c'est un terme qui est apparu...
Rudi Reichstadt, oui, n'importe quoi.
Fake news, pardon.
Je commence avec vous.
Non, je disais... L'expression de révolution de couleur, elle est apparue en 2005-2006. Elle avait une dimension assez lyrique, en fait, au départ. Et puis, elle a été petit à petit réinterprétée par les désinformateurs complotistes pour en faire le synonyme de coup d'État soft, déguisé et téléguidé. Par qui ? Bien, par l'impérialisme américain, en l'occurrence. Et pourquoi ? Eh bien, avec un but politique très clair, qui était de doubler la répression physique, réelle, militaire ou policière, de mouvements de contestation de pouvoir autoritaire ou de régime liberticide, de mouvements réels, hein, de soulèvements populaires réels contre la corruption, pour la liberté, pour la démocratie. Bien de doubler cette répression d'une répression ou d'une violence symbolique consiste à dire en fait vous n'êtes qu'une cinquième colonne à la solde d'une puissance étrangère, vous êtes des agents de l'étranger, et voilà, et c'est ça qui est problématique, parce que lorsqu'on s'intéresse de près à ces mouvements qui ont émergé notamment dans l'espace post-soviétique, on s'aperçoit que oui, ils ont reçu le soutien, c'est vrai, du département d'État américain, parfois de fondations de philanthropes qui défendent les libertés publiques comme celle de George Soros, qui fait couler beaucoup d'encre et qui cristallise sur sa personne énormément de fantasmes complotistes, ces mouvements ont une authenticité. Ils procèdent d'une véritable colère, d'une véritable exaspération populaire, et les réduire à cela, à un complot, eh bien, c'est nier la réalité des griefs qu'ils portent.
Pour revenir aux gilets jaunes, par exemple, la fake news qui a été largement médiatisée, c'était le fait que au pic, je crois qu'ils étaient à 2 870 000, c'est ça ?
Et 2 millions, vous voulez dire. 282
000. Plus tard. 282 000. 6 millions pour finir à 10 millions. C'est ça qui était véhiculé sur Facebook.
Bien sûr. Le problème, vous venez de citer Facebook, parce que c'est un des problèmes majeurs de ce mouvement des gilets jaunes, c'est qu'on s'est rendu compte après que les gilets jaunes se nourrissaient essentiellement d'informations qu'ils échangeaient sur Facebook, dans des groupes qui sont au fil du temps devenus des petites bulles. Hein. C'était comme une espèce de barbecue.
Alors c'est ce que vous dites dans votre livre, vous dites les gilets jaunes s'expliquent par un changement d'algorithme sur Facebook.
De page, alors ça, voilà. Quand vous dites de page,
ça veut dire quoi ?
C'est très simple, même si c'est très compliqué à la fin. En 2016, on a accusé Facebook d'avoir fait le jeu de la désinformation, j'allais dire brute de pomme, brute de fonderie, avec des fausses pages qui étaient propagées, et ça a provoqué, selon certains, une accélération de l'élection de Trump, le Brexit, etc. Donc Facebook a quand même fait amende honorable, a tenté de se réformer, et au lieu de mettre en avant ses pages, il a préféré mettre en avant les communautés, la tribu, en quelque sorte revenir aux vrais gens, etc. Le problème, c'est que ça a fabriqué un autre phénomène, qui est que les gens se nourrissent de moins en moins d'informations qui viennent de l'extérieur et qui pouvaient varier en quelque sorte leurs informations, et se nourrissent de plus en plus d'informations qu'ils échangent entre eux. Et on se rend compte que les groupes Facebook du départ, qui pouvaient comporter des dizaines, voire dans certains cas des centaines de milliers de personnes, se nourrissaient d'informations qui étaient en effet totalement fausses, mais qui étaient répandues à la vitesse de l'éclair, puisqu'on sait que les informations fausses sont 6 fois plus virales que les informations justes. Et donc les jaunes, en effet, ils se sont vus, et c'est réellement ça, 5 millions, 10 millions, tous ceux qui prétendaient qu'ils ne l'étaient pas, mentaient naturellement. Bon, parce que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, ils avaient envie d'être 5 millions ou 10 millions, il leur suffisait de le prétendre, et comme sur Facebook, ils n'ont pas de contradicteurs, pour ainsi dire, personne ne pouvait venir, sauf évidemment des mauvais coucheurs comme les journalistes parisiens, forcément à la solde du pouvoir d'Emmanuel Macron, etc., etc. Mais ça, on connaît le principe.
Rudi Verhofstadt.
Oui, ce que décrit Manuel Ostian, c'est ce qu'on appelle aussi l'enfermement algorithmique. C'est-à-dire que les algorithmes de ces plateformes, qu'elles soient YouTube, Facebook, voire Twitter, ont tendance à vous enfermer et à vous exposer uniquement à des contenus qui sont ceux qui sont partagés par la communauté à laquelle vous appartenez. La communauté numérique, hein. Et voilà.
Et Kevin Limonier, le président Macron, à l'occasion justement de ce mouvement des Gilets jaunes, lui, a accusé de facto une puissance étrangère en disant elle joue un rôle dans l'aggravation du conflit, c'était la Russie. Vous pensez qu'il a exagéré, Macron, quand il a dit ça, ou est-ce que vous pensez que le fait est que les Russes étaient présents dans l'affaire ?
Alors, que les Russes aient été présents dans l'affaire ne fait aucun doute, puisque on sait que pendant le mouvement des Gilets jaunes, les journalistes de RT, Russia Today, et ceux de Sputnik ont été accueillis à bras ouverts par les manifestants. C'est toujours le cas d'ailleurs, effectivement, alors que des journalistes d'autres médias comme BFM TV, etc., ont pu être victimes d'agressions physiques. De là, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne orchestrée depuis Moscou qui aurait provoqué les Gilets jaunes. On n'est pas dans d'ingérence de ce style, puisqu'il n'y en a effectivement pas besoin, puisque si on reprend la doctrine russe telle qu'elle existe, il s'agit plus de produire, nous, ce qu'on appelle du matériel informationnel, c'est-à-dire un peu comme des armes, si vous voulez, comme on produit une AK-47 ou Kalachnikov ou autres armes, qui vont être ensuite remobilisés par des acteurs locaux à l'aune de leurs agendas politiques spécifiques. Ce qui veut dire qu'on a des acteurs qui vont parfois mobiliser des éléments de langage ou des contenus qui ont été produits par de l'argent public russe, puisque RT et Sputnik sont financés par le gouvernement russe.
Par les impôts des Russes.
Par les impôts des Russes, effectivement, et par le complexe militaro-industriel. Mais les gens qui vont reprendre ces discours-là en France ne vont parfois ne pas en avoir conscience. Et ils ne vont pas forcément mobiliser ces contenus dans l'intérêt de la Russie, mais dans l'intérêt de leur lutte politique respective.
Alors pour revenir non pas sur les Gilets jaunes, puisque la Russie a un rapport avec les Gilets jaunes, mais aussi avec l'élection de Trump, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette élection, justement, sur ce qui s'est passé sur Facebook, avec un homme dont on apprend l'existence, et c'est vrai que c'est la première fois que j'en entendais parler, c'est Robert Mercer. Qui est ce Robert Mercer ? Emmanuel Ostian.
Oui, on pourrait en parler des heures parce que c'est l'éminence grise entièrement cachée, l'homme de l'ombre. Les gens qui le côtoient ont à peine entendu sa voix au fil du temps. C'est un des milliardaires qui ont soutenu Trump et qui ont déversé des flots d'argent littéralement et qui ont modifié sa campagne, notamment en lui envoyant sa fille et Steve Bannon.
Bannon
qui émerge réellement à ce moment-là. Mercer, c'est la vraie alt-right américaine, c'est cette vraie extrême droite.
Alt-right, c'est-à-dire droite alternative.
La droite alternative qu'on pourrait comparer à l'extrême droite en France, qui voulait un président républicain dur. Bon, en l'espèce, Donald Trump était le bon cheval, si vous me passez l'expression. Donc, ils ont poussé Donald Trump, et Mercer est un climato-sceptique, il est très clairement raciste, il ne supporte pas l'idée qu'il y ait une immigration en territoire américain. Et cet homme-là, et c'est très intéressant, parce que il a fait fortune dans la data, dans l'ancêtre de la data. Ça a été un des premiers à avoir les ordinateurs qui faisaient des placards entiers à l'époque. Donc, un des premiers à se former à l'informatique. C'était pas quelqu'un qui sortait d'université brillante, mais il a immédiatement eu la prescience que la data serait extrêmement importante dans le monde futur. Il a beaucoup travaillé là-dessus, et puis ensuite, il a créé des organes comme Cambridge Analytica qui sont...
Alors, qu'est-ce que c'est Cambridge Analytica ?
C'était l'outil d'analyse de la data qui a été mis au service de Donald Trump, mais pas que, hein, puisque Cambridge Analytica a été une société qui a travaillé pour beaucoup d'autres, et dont le principe était d'aller analyser dans les réseaux sociaux, sur l'Internet en général, les petites failles, les points sur lesquels il allait falloir insister, et schématiquement de donner un ordre d'attaque pour qu'ensuite des trolls ou d'autres personnes puissent bien gouverner le navire.
Balancer des fake news. Qu'est-ce qui se passait en Macédonie ? Vous savez ce qui se passait en Macédonie, Rudy Rechtel ?
En Macédoine,
Macédoine, c'est autre chose.
De mémoire, c'était l'endroit d'une ferme à trolls, c'est ça ?
Il y a une petite ville, toute petite ville, qui était minée par le chômage, et il se trouve qu'un certain nombre de jeunes gens avaient fait des études informatiques, et l'un d'entre eux s'est improvisé troll, en quelque sorte. Il a commencé à créer des sites qui appuyaient Donald Trump, qui laminaient généralement...
Hillary Clinton, c'est Hillary là où, Clinton, par exemple, voilà. Avec des fake news du style Hillary Clinton est un homme, voilà. Et Bill passe son temps à violer des jeunes filles de 14 ans.
Ou à faire assassiner des opposants politiques. Voilà. Enfin, on a à peu près tout entendu. Ils ont lancé ça sur la toile. Ils se sont rendu compte que ça a très bien marché. Ils l'ont monétisé très, très rapidement. Oui. Aujourd'hui, ces jeunes roulent en Mercedes. Hein. Ils attendent avec impatience les élections prochaines puisqu'ils vont refaire la même chose. Et ces sites qui, au début, étaient d'ailleurs très mal écrits parce qu'ils sont pas américains, ouais. Donc ils parlaient pas un anglais courant, etc. Mais ils se sont améliorés au fil du temps. Ces sites ont fait florès et ont beaucoup marché. À
mais
tel
ça,
point,
c'est une petite entreprise, ça, non? Parce qu'il y a la grosse entreprise de Saint-Pétersbourg, qui est beaucoup plus importante, Rudi Reichstadt.
Oui, ce qui est une entreprise alors dont on suppose très fortement qu'elle est liée au Kremlin, d'une manière ou d'une autre, et qui, là, industrialise en fait la désinformation. Alors, cette entreprise, elle est notamment épinglée par un rapport public conjoint du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense français.
Passionnant.
Qui montre qu'aujourd'hui, l'information est militarisée. On a militarisé l'information, c'est-à-dire que c'est une arme comme une osque, un peu ce que disait Kevin Limonier tout à l'heure. Et parmi ces outils, si vous voulez, c'est une forme de division militaire de l'information qui prend la forme d'une sorte de start-up basée à Saint-Pétersbourg.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire sur la Kevin militarisation Limonier. De l'information, puisque l'usine à troll dont on parle, l'IRA, Internet Research Agency, est liée à un acteur, un individu russe qui s'appelle Yevgeny Prigozhin, qui est connu pour avoir été le cuisinier de Vladimir Poutine, qui a fait de la prison, etc., et qui est également derrière la société militaire privée Wagner, qui aujourd'hui emploie des mercenaires en Afrique, qui a eu une activité importante en Syrie. Il y a eu d'ailleurs plusieurs dizaines de mercenaires de Wagner qui ont été tués dans des frappes américaines, puisque les Russes les ont envoyés un petit peu en proxy, hein, si j'ose dire. Et donc oui, on a une véritable militarisation de l'information, au sens que les sociétés écrans, puisque c'est un système de société écran. Les sociétés écrans qui servent à financer l'IRA et les sociétés écrans qui servent à financer Wagner sont à peu près similaires. Et on peut supposer d'ailleurs que les sources de financement sont les mêmes.
Un peu de vérité, ça ne nous fera pas de mal dans le NRV. Eux, ils sont deux.
C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Ils sont texans, c'est vérifié. Et leur rock griffe un peu, juste un peu, Black Puma.
help me understand you.
De la soul vintage signée Black Pumas, la programmation Il met le feu de Jean-Baptiste Audibert.
Placer l'Alsace, car c'est l'Alsace qui est visée sous la tutelle de l'Allemagne. Imposer l'allemand à l'école ou dans l'administration.
Le nouveau rendez-vous.
Mais le plus grave.
Est-ce un accident ? Est-ce un acte de malveillance ? Est-ce un attentat ? Je repose la question.
L'objectif final des redécoupages territoriaux en France, c'est quoi ?
Je comprends pas.
C'est avoir des régions de l'Union Européenne de la même taille que les États des États-Unis d'Amérique.
C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce qui se passe.
Laurent Boumard.
Qu'est-ce qui se prépare ?
Sur France Inter.
Fake news et désinformation organisées, balancées par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau. On n'a pris que des Français, mais il y en aurait tant d'autres. Désinformation pour gouverner et pour déstabiliser, on en parle avec nos invités. Ils sont trois, Rudi Rechtstadt, Emmanuel Ostian et Kevin Limonier. Emmanuel Ostian, dans votre livre, vous prenez une date, 2016, comme déclencheur d'une stratégie de désinformation.
C'est le moment où un mouvement qui était en fermentation depuis longtemps trouve son apothéose en quelque sorte, puisque c'est le moment où on a l'élection de Donald Trump qui était une surprise relative, en tout cas peut-être pour les élites de la côte est américaine, et puis ce Brexit en Grande-Bretagne qui a aussi été une surprise pour les élites londoniennes. Je schématise un petit peu, mais c'est ça, avec en tout cas des mouvements derrière de désinformation qui ont largement nourri une contestation.
Vous pensez que la désinformation, ce terme qui remonte au siècle dernier, inventé par les Russes, le KGB à l'époque, vous pensez que la désinformation explique le succès électoral de Donald Trump? Parce qu'il y a aussi un mouvement populaire, finalement, de gens de la petite Amérique ou de l'Amérique blanche qui a voulu manifester son désarroi.
Je suis pas assez intelligent pour l'expliquer de cette façon. En tout cas, ce sont deux jambes qui vont à peu près dans la même direction. Les populismes ont l'autre jambe qui est un outil précieux d'ailleurs pour eux, qui est une forme de désinformation quasi généralisée. Parce que
qui passe par Facebook aux États-Unis et en France et qui passe par WhatsApp pour Bolsonaro.
Exactement. Parce que, alors là, c'est vraiment pour des raisons pratiques, c'est que le réseau WhatsApp est le plus développé au Brésil, tout simplement parce que les opérateurs téléphoniques coûtent extrêmement cher. Et donc WhatsApp, qui passe généralement par le Wi-Fi, est le moyen le plus populaire de s'informer. Et c'est pour ça que les Brésiliens utilisent WhatsApp et que WhatsApp cristallise tout ça. Mais c'est le cas en Inde aussi, par exemple.
Kevin Limonier.
Oui, moi je voudrais revenir sur la date que vous évoquez, qui est effectivement la date de l'explosion de quelque chose qui était en gestation depuis longtemps, notamment côté russe, puisque les Russes ont été des artisans quand même. On ne sait pas s'ils ont permis l'élection de Donald Trump, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé et qu'avec des moyens qui sont inférieurs au coût d'un missile ou d'un avion de chasse, ils ont fait des dégâts considérables dans la vie politique américaine. On peut remonter en fait aux révolutions de couleur 2005-2006, au moment où vraiment la Russie est au plus bas de son image internationale. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités russes de se dire il faut leur faire la même chose que ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est-à-dire que dans la conscience des élites russes au Kremlin, il y a cette idée que la révolution orange en Ukraine, etc., ont été fomentées par des organisations américaines, européennes, par de l'argent de l'OTAN, par de l'argent de la CIA, etc., etc. Que ce soit vrai ou non, c'est la représentation que ces acteurs ont. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, il faut que nous leur fassions la même chose.
Qu'on leur rende coup pour coup.
Et la deuxième rupture que l'on a dans cette stratégie, ça c'est la prise de conscience. La mise en place vraiment de toute la stratégie, c'est 2011-2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a eu les plus grandes manifestations jamais organisées en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Moscou. Le pouvoir a eu peur à ce moment-là. Et c'est le retour au pouvoir de Vladimir Poutine. Les gens manifestaient contre le retour de Poutine au pouvoir. Et c'est ce qu'on va appeler, quand Poutine revient au pouvoir, le virage conservateur. Il va y avoir un serrage de vis considérable sur la question des droits humains, le traitement des homosexuels, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que Poutine va se poser en garant et en figure d'une sorte d'internationale conservatrice, et que vont être pensés les outils médiatiques qui sont Russia Today, qui sont Sputnik. Russia Today existait avant, mais pas du tout de la même manière.
Radicalisé à ce
moment-là.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là vraiment que va se mettre en place toute cette arsenal informationnel qui va mettre à peu près trois ou quatre ans à arriver à maturité en Occident.
Oui, il faut ajouter aussi que alors Russia Today existait auparavant, et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de commencer à émettre, en 2005, Russia Today, par exemple, faisait partie des médias internationaux qui étaient partenaires d'une conférence anti-impérialiste organisée à Bruxelles, l'initiative de Thierry Messant, le fameux théorie du complot, le théoricien du complot qui explique qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Et cette conférence anti-impérialiste, entre guillemets, c'était un wouzou du conspirationnisme mondial. On y trouvait des personnages hauts en couleur, pour le coup, un ancien du MI5 qui depuis a expliqué qu'il était le messie, enfin voilà. Et quelques années plus tard, quand même, il y a eu un ballon d'essai, on l'oublie, avant l'apparition de RT France, assez récemment, il y a deux ans, un peu plus sur Internet, il y a eu quand même un ballon d'essai de la Russie avec une chaîne pilotée par des militants d'extrême droite, l'extrême droite française appartenant au Parti de France, Parti de la France, de Karl Lang. Qui est en périphérie du Front National, qui s'appelait Pro-Russia TV, et dont le logo, on s'en souvient pas, était calqué, c'est le même logo que le logo de Russie Unie, c'est-à-dire le parti de Vladimir Poutine. C'est une expérience qui a duré deux ans à peu près, qui commençait à avoir du succès, et finalement qui a été débranchée et avant le lancement de RT France.
Juste pour ajouter une chose sur l'historique de Russia Today, ce qui est très intéressant aussi, c'est que au départ, la volonté de créer Russia Today a été de s'inspirer de Al Jazeera, et notamment du fait que Al Jazeera avait eu un traitement disruptif, pour reprendre une terminologie en vogue, de traitement de la guerre du Golfe, et que aujourd'hui encore, on parle beaucoup des Russes, bien évidemment, ils ont un rôle, ils jouent un rôle, bon, mais il n'y a pas que les Russes.
Non, j'allais le dire, il y a notamment dans le livre d'Emmanuel Ostion, il parle par exemple de la diabolisation organisée des Serbes. Là, ça venait pas des Russes, cette diabolisation.
Ah oui, alors ça, c'est... Là, on remonte un petit peu en arrière, effectivement, au moment où il a fallu vendre à l'opinion publique, hein, et ça, les Américains l'ont beaucoup fait, où il a fallu vendre un certain nombre de guerres. Ça a été notamment le cas...
Parler de la guerre de Yougoslavie.
La guerre de Yougoslavie, alors, pour le coup, là, c'était presque plus simple, plus basique, si vous me passez l'expression, puisqu'il s'agissait d'employer des agences de communication qui devaient vendre à l'opinion publique. Il y a naturellement la Yougoslavie, mais il y a la guerre du Golfe, avec cette intervention de la fille de l'ambassadeur qui s'était Kowetien. Fait passer qui s'était fait passer pour une jeune infirmière, et c'est elle qui avait déclenché le basculement de l'opinion publique américaine pour pouvoir intervenir.
On croit que les Irakiens massacraient des bébés,
des couveuses,
exactement. Que des nourrissons avaient été jetés à terre hors de couveuses. Quelles sont parfaitement faux.
Quelles sont les dernières techniques aujourd'hui de désinformation? Je vois tout le monde sourire, oui.
Il y en a pas mal.
Il y a un personnage russe qui s'appelle Jenny Abrams, qui a été très connu aux États-Unis, qui a fait des tweets, des millions de tweets, comme une jeune femme américaine, mais qui évidemment était
très ordinaire,
la création des Russes, Kevin Limoney.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des méthodes qui étaient utilisées par l'Internet Research Agency, dont on parlait tout à l'heure, la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg, qui aux États-Unis, pour le coup, a produit énormément de faux comptes qui se faisaient passer pour de vraies personnes. Il y a aussi d'autres techniques, alors qui ont été utilisées, comme l'astroturfing par exemple. Alors l'astroturfing,
les Chinois,
les Chinois le font, les Russes le font aussi beaucoup. Consiste à créer une page sur les réseaux sociaux, à accumuler énormément de likes pour avoir beaucoup de suivi sur des sujets plus ou moins anodins, et au bout d'un moment, on va se mettre à diffuser du contenu politique. Ou aussi, ce qu'ont beaucoup fait les Russes, c'est de créer des pages sur des causes diamétralement opposées à celles des supporters de Donald Trump, notamment la cause noire aux États-Unis, les féministes, etc., et créer des pages qui sont outrancières et qui in fine, desservent.
Bien sûr, pour décrédibiliser
complètement les mouvements.
Et mieux encore, si je peux ajouter quelque chose.
Et même ouais.
Les trolls, entre eux, on imagine des voisins de bureau, se battent à travers leurs réseaux sociaux parce que l'idée, c'est de créer un conflit. Donc vous allez avoir un troll russe, un faux conflit, mais qui va devenir vrai parce qu'il va entraîner un certain nombre de personnes. Vous allez avoir un troll russe qui est un Américain raciste, un troll russe qui sera un Américain non raciste. Les deux se rentrent dedans, ça crée une polarisation du débat, et les vrais Américains, eux, vont venir participer, et ils vont... Et du coup, il y a un débat autour de la question raciale, par exemple, parce qu'en 2016, ça a été
Elle a été mise au centre, alors qu'elle n'était pas au départ. Ouais.
Et non. Et du coup, ça crée un débat, et ce débat, généralement, est dans l'intérêt de personnages comme Donald Trump.
Comme Donald Trump, oui.
Ça crée de l'hystérisation, surtout. Ouais. C'est ce qui est le but recherché. Non, il y a une autre technique qu'on a vue, d'ailleurs, à l'œuvre, aussi bien sur ce qui peut se passer en Syrie, en Ukraine, sur l'assassinat de Boris Nemtsov, sur la tentative d'assassinat de Sergei Skripal et sa fille, sur le crash du MH17, vous savez, cet avion de la Malaysian Airlines qui s'est crashé, qui a été abattu en fait par des forces pro-russes au-dessus du Donbass, au-dessus de l'Ukraine, c'est la technique du foisonnement. C'est-à-dire que les médias russes, en particulier, ou pro-Kremlin en tout cas, vont explorer un nombre incalculable d'hypothèses pour noyer les hypothèses qui seraient les plus fâcheuses pour le Kremlin, c'est-à-dire dans le cas de l'assassinat de Boris Nemtsov, que finalement ça profite peut-être à Poutine, ces choses-là, et pour noyer comme ça, comme des contre-mesures comme ça qui seraient larguées d'un bombardier Tupolev, et pour noyer le débat et créer un écran de fumée.
C'est un effet répulsif, et c'est
assez efficace.
Alors comment résister à cette désinformation? Je voudrais faire un gros plan sur Steve Bannon, qui fait l'objet d'un documentaire qui va sortir mercredi prochain en salle. Steve Bannon, le grand manipulateur. Tout à l'heure, on entendra la réalisatrice parler de son film et de son sujet, mais je voudrais juste qu'on entende une question que je lui ai posée sur une séquence. On est à Venise, elle va filmer un entretien de Paul Lewis, le journaliste du Guardian, avec Bannon. Et Paul Lewis va lui poser des questions très précises à Bannon sur l'antisémitisme masqué et sur ses liens avec des personnes qui se réclament d'Hitler. J'ai demandé à Alison Kleman les raisons de cette séquence, alors qu'elle-même n'interviewe jamais Bannon dans ce documentaire.
Dans ce cas particulier, j'ai trouvé que Paul Lewis, le journaliste du Guardian, était un exemple parfait de comment on pouvait essayer de titiller Bannon, comment on pouvait essayer de le vaincre par les mots. C'était un intervieweur qui était effectivement très carré, très vindicatif, mais il n'était pas du tout préparé au mensonge qui allait lui être rétorqué. Et je dirais que dans le contexte de mon film, ça montre aussi en fait au public quelle tête a Bannon quand il ment, et on voit bien comment il peut mentir de manière effrontée en vous regardant bien droit dans les yeux et en disant « je ne l'ai pas fait ».
C'est-à-dire en tentant de donner la vérité, en fin de compte, ça ne marche absolument pas. Quelles sont donc les techniques aujourd'hui pour pouvoir contrer la désinformation? Puisque plus on essaye de donner la vérité, plus ça joue contre celui qui profère ce propos. Emmanuel Ostian.
C'est un vrai débat, et pour le coup, il est pas résolu, hein, je pense, aujourd'hui. C'est même le débat du fact-checking d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à vouloir lutter avec des armes honorables contre des campagnes de désinformation, on risque de les propager un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Barbara Streisand avait porté plainte contre un tout petit site qui avait pris des photos aériennes de sa villa en Californie, parce que ça l'avait agacé. Ça n'avait strictement rien à voir avec elle, mais du coup tout le monde était au courant. Bah là, on est un petit peu là-dedans. Le problème, c'est qu'on a tendance de bonne foi à relayer des informations qui sont complètement fausses, en luttant contre elle, et hélas, ça fait notamment monter le conspirationnisme.
Alors vous savez, le drame des fake news, en fait, c'est qu'on s'habitue à tout, n'est-ce pas, Renan Luce?
On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadou, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'anges, à plus se méfier du tout. on s'habitue à tout. Mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même. Ce baston de mots doux, on s'habitue à tout. Mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence. Et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout, on s'habitue à tout.
On s'habitue à tout. Renan Luce sur France Inter, la programmation Un rien cynique ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Même si j'ai 64 ans, je sens que le temps presse et que je dois avancer. Il y a des gens qui changent les choses. Sans moi, Trump n'aurait pas gagné, ça ne fait aucun doute. Ni pour moi, ni pour lui. Donald Trump est un personnage historique et un président transformationnel. Il fera encore partie de votre vie personnelle dans 30 ans.
Donc vous sacrifiez votre vie personnelle pour cette cause ?
Non, mais c'est quoi une vie personnelle ? Vous savez, toute ma vie, j'ai été un vrai bourreau de travail. J'ai étudié l'histoire, j'ai suivi la politique. J'avais aussi des hobbies comme le golf. Mais quand on vieillit, cette vie est épanouissante. Je suis trop occupé pour penser à autre chose. Et franchement, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Gouverner par les fake news, le mensonge, organiser la désinformation, occuper les médias, c'est la stratégie de Steve Bannon, filmé pendant un an par Alison Kleman. Le titre du documentaire est explicite. Steve Bannon, grand manipulateur, ça sortira mercredi prochain. Un an avec Steve Bannon, ça commence en 2017, il a 64 ans, il a déjà démissionné de la Maison Blanche après les événements de Charlottesville. Vous vous souvenez, c'est le défilé des néo-nazis et suprématistes blancs. À cette époque, il était le chef de la stratégie de Donald Trump. Et dans le film d'Alison Kleman, eh bien on le voit mettre en place son mouvement qui a pour but de fédérer les politiques de droite dure et d'extrême droite sur le plan international avec un focus en Europe. Le film s'ouvre sur Bannon qui parle de son voyage à Auschwitz et il donne son analyse sur l'industrialisation à l'œuvre dans les camps de concentration due au savoir-faire de Mercedes, d'Hugo Boss et de Krupp. Le film s'ouvre là-dessus et ce n'est pas innocent parce que Bannon est suspecté de propos antisémites masqués. Le film va revenir sur cette dimension. C'est un documentaire sans interview, sans entretien. Bannon est filmé en action, en réunion, dans ses déplacements. Et j'ai demandé à Alison Kleman les raisons de ce choix. Ne pas interroger Steve Bannon, est-ce que c'est une stratégie payante ?
The very question of this film is how do you make a movie?
Je dirais que la question principale avec ce film, c'était comment on montre la figure de Steve Bannon, quelqu'un pour qui la vérité n'a pas de valeur, quelqu'un qui manipule les médias, qui dit que toute presse se vaut, et quelqu'un qui essaye d'étendre son emprise sur le monde. Et c'est précisément pour cette raison-là que je voulais faire un film de la manière que j'ai utilisé, c'est-à-dire le cinéma vérité. Je pense que s'asseoir face à Bannon pour une interview est quelque chose qui est perdu d'avance d'une certaine manière. Hein. C'est une proposition voie l'échec.
Le film va le servir, en quelque sorte. En plus, il connaît les rouages du cinéma. Il a été producteur, il a travaillé à Hollywood. Comment vous pouvez vous en sortir face à ce personnage que vous cherchez à démystifier ?
Well, You know, I worried every day. My concern every day.
J'étais effectivement inquiète tous les jours, hein, et ce qui m'inquiétait, c'était de voir comment tous les jours il allait essayer peut-être d'avoir l'ascendant sur moi, de me manipuler. Et donc, ma démarche, c'était de ne jamais le sous-estimer. Je ne lui ai jamais vraiment fait confiance. Je n'ai jamais baissé la garde, hein, et espérais donc que lui, à l'inverse, me faisait confiance. Ce que je dirais, c'est que le film va sortir en France, mais il est déjà sorti sur les 8 derniers mois aux États-Unis, en Espagne, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Italie. Et c'est un film, je crois, qui ne sert pas l'image de Steve Bannon dans le monde. Hein. J'aurais pas dit quelque chose comme ça au tout début de la sortie du film ou pour la toute première sortie, mais je crois que effectivement le public en fait vit dans le monde de Bannon et d'une certaine manière ce film le révèle et ça ne l'aide pas.
Il aime le film ?
Non.
Non.
Il vous l'a dit ?
I know because he cut off all communication.
Alors, je le sais parce qu'il a interrompu tous les liens qu'il avait avec ma productrice. Et pour utiliser les propres termes de la productrice, c'est s'il avait pensé que ce film était bon, il aurait fait une déclaration à son sujet.
Il y a une séquence à Venise, c'est un entretien avec Paul Lewis du Guardian. Et Bannon lui demande, avant l'entretien, s'il a vu son film, parce que Bannon avait fait un film sur Trump qui s'appelle Trump War. Le journaliste avoue que non. Alors déjà, moi je me dis, c'est pas possible, le journaliste n'a pas fait son boulot. Et Bannon lui dit, très malicieusement, eh bien, je vous l'envoie ce soir, c'est de la propagande, c'est un film de propagande, et pour moi, la propagande a du bon. Le journaliste ne dit rien, on voit qu'il est un peu interloqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand Bannon lui-même déclare que son film, c'est de la propagande ?
I mean, the truth is, Bannon's films are propaganda.
La vérité, c'est que les films de Bannon sont de la propagande, mais il parle de propagande à ce journaliste du Guardian pour essayer de le provoquer, hein, parce que effectivement, ces films sont à 100% de la propagande. Ce ne sont pas des films qui recherchent la vérité. Il est là pour convaincre les gens. La vérité lui importe un peu. Si on le traite de raciste ou de propagandiste, il s'en fiche. Et je crois que l'une des choses qui est le véritable défi pour faire un film avec Bannon, c'est essayer de trouver quelque chose de neuf qu'on n'ait pas vu d'une certaine manière dans les coulisses tous les jours. Hein.
J'ai pu lire dans le dossier de presse qu'avec ce film, vous voulez le démystifier. C'est un mot assez fort. Démystifier, ça signifie quoi pour vous ?
So I think, there's a word that's more typically used in this context.
Alors, je crois qu'il y a un mot en fait qui est plus typiquement utilisé. Ça veut dire humaniser cet homme. Et je crois que c'est un terme en fait qui, d'une certaine manière, a en sous-texte l'idée de adoucir quelqu'un, de le rendre plus ordinaire. Et évidemment, je veux bien sûr dire qu'on est tous humains. Hein? Goebbels était humain, George Bush était humain. Et voilà. Et il n'y a pas besoin d'humaniser les gens. Tout le monde est humain. Hein? Mais j'aime le mot démystifier parce que quand j'ai commencé ce film, l'un des points forts de Bannon, c'était cette image publique pratiquement mythique qui avait été principalement inventé par la presse. Et donc, je voulais, pour le pire ou pour le meilleur, parce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais je voulais montrer ce qui était derrière, en fait, cet homme qui était présenté comme un cerveau, comme quelqu'un qui tirait les ficelles. C'était mon boulot à moi de trouver ce qu'il y avait derrière.
Alors même qu'en fait, on se rend compte qu'il n'a qu'une idée, c'est-à-dire le nationalisme économique. C'est le seul argument qu'il profère à longueur de réunion, à longueur d'interview. Alors, vous le filmez en campagne, notamment en Europe. Ça, c'est très intéressant. Quand il rencontre des politiciens d'extrême droite, dans sa chambre à l'hôtel Bristol à Paris ou à Londres, notamment Marine Le Pen, Matteo Salvini, Nigel Farage, pour le mouvement qu'il a créé, le mouvement en vue de gagner justement les européennes de 2019. Ce sont des dîners, des réunions. Et parfois, vous êtes quand même prié de passer derrière la porte. À quel moment précisément ?
Alors,
l'exemple de sa réunion avec Louis Alliot et Jean Rivière du Rassemblement national, hein, c'était le moment où ils avaient des problèmes au niveau européen et ils essayaient de demander à Bannon comment ils allaient s'en sortir. Je ne sais pas si Bannon allait les mettre en relation avec de nouveaux donateurs, s'il a lui-même donné de l'argent ou s'il leur a donné des conseils pour gérer leurs finances. Hein, mais il y a des gens aussi qui ne voulaient pas être filmés. Et c'est intéressant, lorsque les gens acceptaient d'être filmés, ça vous dit déjà quelque chose, puisque ça vous montre qu'ils n'ont pas peur d'être associés à Bannon.
Alors un an avec Bannon, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année passée, dans des réunions avec des néo-nazis, des suprématistes blancs, avec le Rassemblement national en France, avec Matteo Salvini?
Je dirais que à chaque fois en fait que je revois le film, mon visage prend exactement l'expression qu'il avait lorsque j'ai filmé ces images, et je crois que c'est quelque chose de particulièrement terrifiant. Je crois qu'il y a des moments dans le film qui sont assez comiques, mais un peu comme une comédie noire. Évidemment, hein, il y a certaines de ces figures sont pitoyables. Il y a beaucoup d'incompétence. Il y a une avidité non dissimulée pour le pouvoir. Et effectivement, j'étais là, prise dans ce cercle-là. Mais finalement, ce n'est pas drôle parce qu'il s'agit de nos vies, il s'agit de notre futur politique dans beaucoup de pays. Et lorsqu'on parle de cette union, en fait, de toutes ces droites dans le monde entier, et lorsqu'on voit, en fait, leur langue qui est similaire, et je crois que c'est pour ça que c'est un sujet particulièrement brûlant.
Et vous avez le sentiment que les camps adverses sont armés contre ce mouvement ?
Non, je ne crois pas que les concurrents soient particulièrement bien préparés. J'espère vraiment, en fait, que ce film permette d'avoir un petit regard, en fait, sur leur manuel. Je crois que c'est une opportunité qui vous est donnée de voir. Je crois qu'on ne peut pas fermer les yeux sur leur lutte qu'ils ne cesseront pas. Et je ne crois pas qu'on pourra se battre contre ces gens-là en fermant les yeux, ni en n'imaginant pas une meilleure stratégie.
And the real thing that I also hope the movie shows is that
si je peux dire encore ça, hein, la chose que je voudrais vraiment que le film montre, c'est que Bannon et des gens comme lui sont peut-être très doués pour parler des problèmes, mais ils ont vraiment aucune solution à proposer. Et ça serait vraiment les mettre au... ça aurait été vraiment un véritable défi si moi, je les avais entendus dans les coulisses et à huis clos parler, en fait, des solutions. Mais bon, ils ne parlent, en fait, toujours que de la même chose que ce qu'ils disent en public. Ils n'ont aucune solution. Et c'est peut-être pour ça qu'il me reste un petit peu d'optimisme, c'est-à-dire que si leurs opposants essaient de se battre pour ce que veulent les gens, c'est-à-dire le travail et une société un peu plus égalitaire, je pense qu'ils pourraient gagner.
Alors je rappelle que Steve Bannon, le grand manipulateur, le film sortira en salle mercredi prochain. Un grand merci à Pascal Fougère pour son interprétation en live. Tiens, je parle de live, et on part tout de suite en live.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Retour plateau avec nos invités, avec Christophe Bourseiller et Marion Guilbeault, son invité, et derrière ces machines.
Et oui, et c'est un artiste qu'on suit depuis ses tout débuts, il y a 3 ans.
C'est pas un troll.
Non, pas du tout. Alors là, absolument pas. Il est bien vivant, lui. Et puis, il se cache pas. il se cache pas, il est avec nous. On a pris le TER avec lui, de Rambouillet, sa ville natale, jusqu'à Paris, avec son premier EP, ça s'appelait TER Centre. Teamed Up, c'est lui, il incarne la voix vibrante de cette zone entre province et banlieue, celle où malgré les espaces verts, les conservatoires de musique, les maisons individuelles, il y a aussi du spleen, des questionnements, des inquiétudes sur la vie, sur l'époque. Avec ses chansons hybrides, Teamed Up a franchi tous les portails d'une jeune carrière, Printemps de Bourges, Francofolie, première partie qui compte. On l'a même entendu interpréter avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fraîcheur, Léo Ferré ou Barbara, et ça s'est pas donné à tout le monde. Son premier opus, Mélancolie Heureuse, était un témoignage sensible des préoccupations milléniales, et depuis, Teamed Up n'a pas cessé d'écrire, passant haut la main le cap du fameux deuxième album, Laurent, vous savez, ce fameux deuxième album.
Le deuxième album. Voilà. Après, il y aura l'album de la maturité, voilà, il faut qu'il se prépare. Hein.
C'est ça. Alors moi, j'en ai écouté que quelques-unes de ses nouvelles chansons, parce qu'il ne sortira qu'en janvier, mais je peux vous dire une chose, c'est que le travail sur la voix, les climats m'ont vraiment bluffé. Ces chansons sont toujours aussi incarnées, concernées, elles sont habitées par une question: quelle empreinte laisse-t-on dans ce monde ? Teamed Up, vous allez nous interpréter en avant-première Le visage de la nuit, c'est une des chansons de ce nouvel album. De quoi parle-t-elle ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Elle parle de... bah voilà, tu le disais, du temps qui évidemment s'effile, surtout dans un monde qui est de plus en plus abîmé. Et donc voilà, la question se pose de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quelle transmission. Et en fait, c'est une chanson qui m'est venue dans une ambiance très cinématographique, à la fois en regardant la fin d'un spin-off de Star Wars, Rogue One, où en fait il y a un couple qui finit sur une plage et la planète explose, et donc c'est cette vague qui leur arrive en face. Et donc voilà, ce constat, qu'est-ce qu'on se dirait chacun intérieurement si on voyait une vague arriver et que c'était la fin. Et mon goût pour la musique et le cinéma de Tarantino, où j'ai découvert entre autres Ennio Morricone, que j'ai aussi samplé sur cette chanson.
Il y a un petit côté épique dans ce titre, vous allez voir. Teamed Up, c'est à vous.
Voilà, c'est la fin, depuis le temps qu'on nous en parle. Sur une plage, les genoux écorchés, l'océan dépose l'écume sur les coquilles blanches, polies par le sel. Le ciel est rose et silencieux, et au fond un bruit blanc, tout juste perceptible. Tes cheveux vermeils forment des courbes et des tresses incomprises. Tes yeux ont le visage de la nuit. J'aime que tu sois libre. J'aime tes hérésies. Alors je profère les litanies défendues. Je m'en moque. Toi, t'es ma seule église. Une tresse perd de ton épaule comme une pluie sur les tropiques. Je passe ma main sur ta nuque aussi nue que les premiers hommes. Sous le pli ombragé de ton sein droit se dissimule là un grain de beauté. Je le sais. On aperçoit le rayon vert au loin comme un mirage et l'imprimé qui s'évapore. On y croit à peine. Mais le rayon grandit et s'approche. La mer se déchaîne. Les vagues ont des hauteurs que même la magie ne saurait plus deviner. On ne s'embrasse pas, c'est trop peu. On se serre en symbiose, valse d'atomes qui s'aimantent, parce que tout va disparaître.
Voyage de la nuit de Tim Dobbs. C'est la première fois qu'il joue ce titre.
Voilà. Merci, oui, avec le lyrisme sous-tendu de
le côté Morricone chuchoté.
Ouais. Ah, c'était très beau.
C'était mignon.
Ouais, il arrive à installer un climat, c'est très beau.
J'aime bien les chanteurs qui parlent, moi.
Ouais, j'en ai marre des chanteurs qui chantent. Poser comme ça. Oui, vous avez le droit, Christophe Conseiller. C'est extrait de son nouvel album, Quand restera-t-il ? Ça sortira le 10 janvier 2020. On est donc très en avance. Et Tim sera en tournée dans toute la France, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Clermont-Cognac et à Paris. Ce sera La Cigale le 27 mars. La prise de son ce soir, c'était Alexandre Chenet et Serge Viguier.
Merci à nos invités. Merci Kevin Limonier. Merci Rudy Rettstadt. L'opium des imbéciles, la critique du complotisme est un sport de combat. C'est aux éditions Grasset. Emmanuel Ostian, désinformation, j'ai plein de choses. Hein. Enquête sur les fake news qui gouvernent le monde aux éditions Plon. Et Christophe Bourseiller, vous n'êtes pas en reste. Vous avez une série, c'est un complot, une série de 7 documentaires sur les théories du complot actuellement sur la chaîne Histoire. Et je rappelle le livre, c'est un complot chez La Teste. Vous n'avez qu'un seul
vous
titre dans
bien.
La vie.
Vous le dites très bien. Il y en a eu d'autres.
C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV, la suite pour plus de France Inter, toujours plus. Pas d'émission exceptionnellement demain. On laisse notre fauteuil au maître de cérémonie Antoine Decaune pour une nuit de la pop en direct du Grand Contrôle à Paris 12. Lundi, on se retrouve et on sera là avec ça.
Il faut bien repenser à tout ce que l'État promet, mieux les rémunérer pour qu'ils arrêtent de les faire chier. Ils préfèrent oublier avec indifférence qu'un agriculteur meurt tous les deux jours en France. Ah, ils ont dû y penser.
Malaise du monde agricole, suicide de paysans, agriculture, 6 pieds sous ou sur terre. Je vous invite dès à présent à poser vos questions, interrogations ou analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. C'est pour donc le malaise paysan. On vous attend, on vous entend en live, Marion, lundi.
Ce sera le folk psychédélique du Canadien Jesse McCormack.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter à 18h sur franceinter.fr et en podcast. Et à 22h, pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Parce qu'on passe à la radio comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion. Il s'y fait pas. Hein. Marion Lelay à la réalisation, la programmation et préparation, c'est bien sûr Virginie Rouzic avec une nouvelle venue, Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal. Gros plan sur Interception qui fête ses 20 ans. C'est au programme du NRV La Suite.
Rendez-vous.